amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Chaque semaine, vous avez l'occasion de rejoindre l'Hacienda. L'Hacienda, c'est la communauté des super fans de Silicon Carnet. Dans cette communauté, vous pouvez discuter avec moi, mes invités, les autres auditeurs de ce podcast. Et pour y accéder, il vous faut faire l'acquisition d'un NFT. Il y en a désormais 10 de disponibles par émission. Ça se passe sur siliconcarnet.uncut.fm. Pas besoin de crypto, pas besoin de wallet. Vous pouvez les acheter avec une simple carte de crédit. Il y a plein de surprises pour les propriétaires de ces NFT de Silicon Carnet. Vous êtes déjà 142 à avoir fait l'acquisition de plus de 200 NFT depuis qu'on a commencé il y a à peine 2 mois. J'ai d'ailleurs préparé cette émission avec certains d'entre vous et on va commencer cette émission tout de suite. Ça se passe maintenant. On va parler du crash du monde de la tech dans Silicon Carnet cette semaine. 13 ans que tout le monde profite de la hausse du secteur de la tech en général, à tel point que certains pensaient que c'était les 30 glorieuses à nouveau, et puis tout d'un coup, patatras, c'est la cata. Bien sûr, tout n'a pas toujours été rose pendant ces 13 années, mais là, on a l'impression que tout se casse la gueule. Aucune branche à laquelle se raccrocher, le Nasdaq est en chute libre, moins 25%, les cryptos sont à moins 60%, quand elles n'ont pas tout simplement disparu, salut Luna. Les investisseurs distribuent les rations de survie ou les extrêmes options, ça dépend. Les startups licencient à tour de bras et gèlent tout un tas de projets. Il manquerait plus que l'inflation atteigne 9%. Attendez, je viens de recevoir une notification. L'inflation aux US vient d'atteindre les 9%. Le monde merveilleux des startups a soudainement changé en 2 semaines et tout le monde fait volte-face. Alors, sommes-nous face à une correction naturelle ou est-ce la fin d'un cycle? Que vous soyez investisseur ou entrepreneur, je suis sûr que vous vous posez plein de questions. Cette semaine, dans Silicon Carnet, on fait le point avec mes invités sur la situation. On va essayer de vous donner des éléments de lecture et surtout des conseils pour naviguer quand le temps devient gros. Et j'ai réuni 3 invités cette semaine. Ils sont tous les 3 investisseurs du seed au late stage. Donc, on va pouvoir parler de l'ensemble de la chaîne et voir comment chaque startup doit s'adapter. Et ce, quel que soit son stage, je vais commencer dans l'ordre. Mon premier invité, c'est Jean de la Roche-Brochard. Il est managing partner chez Kima Ventures. Vous le connaissez, c'est un habitué de Silicon Carnet. Il est aussi co-founder de New Wave. Salut Jean, comment ça va?
Salut Carlos. Super.
Tu es où là? Tu es à Aix-en-Provence, c'est ça?
Je suis à Aix-en-Provence, au calme.
Ouais.
Je regarde BFM TV, tout ça.
Tu regardes BFM TV. Tu m'as dit, on parlera pas de la finale de la Champions League. Donc, non. Je t'en parle.
Non, mais écoute, ça va les occuper toute cette semaine. C'est bien. Faut bien qu'ils aient de quoi faire leur chou gras. Hein.
Ouais, exactement. Bon, on va pas parler de la finale de la Champions League. On va parler du monde merveilleux de la tech et des startups. Ma deuxième invitée, c'est Pia Dirban. Elle est co-founder et managing partner chez New Wave. Vous connaissez tous les deux, Jean et Pia. Bienvenue. Pia, c'est ta première dans Silicon Carnet.
Merci beaucoup.
Écoute, on est ravis de t'avoir. Donc oui, je disais, vous vous connaissez parce que je le disais en présentant Jean, vous avez en fait créé ensemble New Wave. Pia, tu nous expliques ce qu'est New Wave?
Ouais, ben New Wave, c'est un fonds qu'on a lancé il y a 1 an et demi maintenant avec Jean. Jean que j'ai rencontré en fait en 2015, on a commencé en venture la même année. Et donc ça faisait quelques années que j'avais rêvé de travailler avec lui. Et ça s'est enfin concrétisé en 2020 avec New Wave, qui est un fonds de seed pan-européen qui lead des investissements dans des startups partout en Europe.
Alors, c'est intéressant parce que vous dites que vous avez tous les deux commencé en 2015. Je le disais en introduction tout à l'heure, ça fait 13 années qu'on vit un petit peu dans une forme d'euphorie de la tech. Donc, vous faites partie de ces investisseurs qui n'ont pas connu la crise, quoi, grosso modo, tous les deux. Moi, j'ai survécu à 2000-2001. J'ai survécu à 2007-2008. 2012 n'était pas top non plus. Les gens ne s'en rappellent pas vraiment. Donc, en fait, vous faites partie de ces investisseurs newborn, new wave, qui n'avaient pas vécu de crise. Ça va être intéressant, on va en parler. Et Elina Beribi, je sais pas, toi, tu es founding partner chez Revaya. Est-ce que tu as connu la crise, Elina?
J'ai commencé à travailler pendant la crise financière de 2008. Et donc, le marché du talent n'était pas le plus facile. Donc, c'était assez stressant pour entrer sur le marché du travail à cette époque. Donc, j'ai vécu un moment où il y avait peu de dry powder.
Donc aujourd'hui, tu es founding partner chez Revaya. Revaya, c'est plutôt late stage, on est d'accord. Vous êtes sur quel stage exactement?
On investit à partir des tours de série B et on va assez loin dans la chaîne de valeur, on va jusqu'au pré-IPO.
Bon, alors, le monde a changé, Jean, depuis quelques semaines. Toi, comment ça va?
Moi, j'ai envie de te dire, tant mieux, quoi.
Ok.
Ça a commencé à suffire. Tu veux, tu te retrouves sur une espèce de course de Formule 1, tout le monde est en sur-régime. Les mecs, ils agitent les drapeaux comme si tout le monde avait gagné. Bon, à un moment donné, si tu veux, en sur-régime, toutes les voitures finissent par claquer. Donc là, il faut revenir à des rythmes un peu normaux. Ça fait du bien. Ça me fait marrer parce que j'ai des mecs qui venaient il y a 3 mois, tu vois, chez Kima, qui me dit « Ouais, je fais un tour de Précide, je lève 3 millions, cap à 20, short de YC, attention, je close dans 48 heures, bouge-toi. » Et qui reviennent maintenant et qui me disent « Bon, finalement, on va lever un premier Précide entre 700 000 et 1 million. Bon, du coup, on va baisser un peu le cap à, tu vois, 7-10 millions. » Bon, plutôt
un petit peu, c'est une petite baisse.
Bon, voilà, mais prends ton temps pour nous répondre, mais ce qui serait bien, c'est que tu viennes, quoi.
Non, c'est voilà. Bien ce que je dis, le monde a changé. On n'est plus du tout dans le même scénario dans lequel on était il y a encore quelques mois. J'ai dressé, Pia, un tableau un peu catastrophique volontairement dans mon introduction. Mais c'est vrai quand même que quand on y regarde de plus près, c'est pas la fête quoi en ce moment, niveau VC et niveau tech quoi en général. Comment tu accueilles cette période?
En effet, c'est pas la fête, on va pas dire qu'on se réjouit d'un downturn.
Jean, il dit que ouais, lui, il est content quoi en fait quoi. Mais il a l'air de se réjouir.
Moi, je suis toujours content moi aussi.
Jean est toujours content, donc ça c'est une des principales qualités de Jean. Ouais. Mais c'est vrai que nous on investit très early stage et je pense que voilà, même si les valos late stage ont baissé, enfin nous fondamentalement ça change pas le fait qu'on croit dans la tech et dans les startups sur le long terme. Et nous on est positionné dans la chaîne de valeur quand même à un endroit qui est très très early stage. Où on essaie de voir le positif, qui est que les valos vont peut-être être un petit peu moins débiles, que les fonds qui avant faisaient de la série A, série B, qui avaient décidé depuis 6 mois ou 1 an de faire du seed parce que la série A c'était devenu trop cher, vont retourner en série A, et que nous du coup on va pouvoir faire notre métier. Chacun rentre chez soi, et nous on peut continuer à faire notre métier et le faire encore mieux dans un environnement où il y a un peu moins de bruit et un peu moins de délire autour des dynamiques de fundraising qu'au Q4 2021.
Alors Elina, est-ce que tu as fait partie de ces saumons qui ont décidé de remonter le courant quoi, en fait, et aller chercher des deals un peu plus early stage? Tu disais que vous commencez à la série B. Est-ce que c'était le cas dès le départ ou est-ce que finalement votre thèse n'a pas véritablement changé même en période d'euphorie? Mais c'est vrai, elle a raison. Pia, on a vu des gros fonds, hein, même américains, se mettre à faire pratiquement du précide hein, dans certains cas. Et là, Pia dit, tout le monde rentre un peu dans sa case. C'est vrai, ça?
Oui, alors nous, on n'a pas bougé de notre thèse depuis le début. Et donc, la série B, ça a toujours été notre début de point d'entrée.
Notre sweet spot.
Et justement, on s'est dit que notre métier, c'était pas de faire les tours d'avant. Donc, on a été assez disciplinés là-dessus. Et en fait, je pense que ce qu'on voit dans tous les stades, c'est que les investisseurs un peu non traditionnels de nos segments respectifs, ils sont plus là. Mais ils avaient beaucoup contribué à l'inflation des vélos et puis les tours un petit peu dingues qu'on a pu voir en 2021. Quand on est un investisseur qui a voilà des convictions de long terme, une discipline, etc., je pense que tout 2021, on s'est dit, est-ce qu'on est débile de ne pas faire ces tours de table qui relèvent 6 mois plus tard. Je pense que rétrospectivement, on a bien fait de ne pas bouger de la discipline. Mais en tout cas, voilà, dans des moments comme ça où ça corrige assez fort, je pense que ça, les acteurs qui ont une vision long terme et des convictions fortes sont plutôt récompensés.
Alors cette crise, elle touche pas hein, que les startups ou que les investisseurs. Hein. Quand on regarde les grosses sociétés technologiques, que ce soit Meta, la société mère de Facebook, ou même Amazon.com, hein, leurs valeurs en bourse ont chuté. Waouh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Leurs valeurs en bourse ont chuté de plus de 30% cette année. Même Apple ou Microsoft ou même Alphabet, qu'on pense intouchable, voit sa valeur chuter de 20%. Netflix, n'en parlons pas, on est à moins 69%. Le S&P 500 est en baisse de 16% depuis le début de l'année, en tout cas ici aux États-Unis. Et le Nasdaq, il a perdu pratiquement plus du quart de sa valeur depuis novembre. Alors ici, moi, je vous le dis, dans la Silicon Valley, tout le monde a mis son poncho, quoi, grosso modo. Tout le monde ne parle plus que de ça, en disant « It's nuclear winter, welcome to winter ». Et je parle un petit peu avec des investisseurs en Europe et je sens une sorte de décalage un petit peu où ils me disent « Ouais, on lit la presse, quoi, grosso modo, mais… » Pour nous, ça va, quoi. Tu vois, et Jean, enfin, ça fait longtemps qu'on en parle. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ça va mettre 9 mois avant d'arriver. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Les investisseurs pensent que ça va s'arrêter à la frontière européenne. On le sent venir ou pas, là?
Quand t'es lent, tu resteras lent, tu vois. T'es lent à keep up avec, à pick up le rythme des investisseurs américains et t'es lent aussi quand ça dégringole. De toute manière, les mecs, ils étaient déjà en retard quand il s'agissait de faire les bons deals. Ils sont en retard avec la crise aussi. Hein. Ça a pas changé. Et après, c'est marrant parce que j'ai eu un entrepreneur ce matin, il était à une retraite avec tous les founders d'un fonds d'investissement européen bien connu. Qui fait beaucoup de SaaS, mm-hmm. Et il me dit, bon, moi, si
donc c'est Point9, pour crise, pas les citer, quoi, en fait.
il me dit, on ne suis pas la première crise, mais je suis choqué du fait que les gens, en fait, se voilent la face, quoi. Ils se rendent pas compte de ce qui est en train de leur arriver en pleine gueule.
Mais ça, c'est dingue, parce que ça, c'est très... ça fait 12 ans que je suis à San Francisco, et c'est pas la première fois que je vois ça. Il y a toujours un décalage. On n'a pas encore compris que ce qui se passait ici, dans la Silicon Valley, allait... automatiquement se passer en Europe, certes avec un lag, mais ça allait se passer. Ouais, mais nous, on est différents, Pia, c'est ça? Ça va pas se passer pareil pour nous, quoi, grosso modo. T'en penses quoi?
Moi, c'est pas quelque chose que je me suis dit. Enfin, avec Jean, on était dans la vallée il y a 2-3 semaines. On était à San Francisco et à New York. Donc, j'ai l'impression que...
Vous avez bien compris le truc.
J'ai l'impression qu'on a bien compris le truc. Mais non, je réfléchis en discutant avec des entrepreneurs, des Européens. Non, moi, honnêtement, c'est pas un discours que j'ai entendu. Après, je parle pas beaucoup à des VC européens.
Tes collègues, Elina, tu parles un petit peu, vous parlez de la crise avec tes autres collègues VC ou alors peut-être que je suis tombé sur les 2-3 mauvais, c'est possible.
On le voit sur les boards. Enfin, je partage ton avis qu'il y a une grosse différence de psychologie en ce moment entre les US où la correction est beaucoup plus radicale. Elle est tout le temps, dans tous les sens.
Ouais,
il y a
toujours.
Encore 3 mois, il n'y avait pas un deal à 100 fois l'ARR qui se faisait, à moins de 100 fois l'ARR qui se faisait aux US. Et donc, en l'espace de quelques semaines, ça a corrigé ultra vite. Et donc c'est intéressant la rapidité avec laquelle ça corrige moins vite en Europe, mais clairement la psychologie elle a quand même pas mal changé. Je pense que c'est plus sensible à notre stade d'investissement, donc en growth on voit clairement plus la contraction à la fois des tours de table, des valos, les tours qui se reconfigurent, etc. Et encore une fois, je pense que c'est pour les boîtes qui ont le plus tiré sur la corde que c'est ultra sensible. Je pense qu'on n'en voit pas encore le plein effet en plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au H2 2021 et qui sont pas encore à court de cash, mais qui seront plutôt à court de cash en 2023. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est le haut de l'iceberg. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Donc ça va malheureusement arriver en plusieurs
étapes.
Et puis on voit aussi en Europe, on lay-off pas tout de suite. Là aux États-Unis, cette correction sur le talent, elle se fait très très vite. Donc il y a plein de raisons qui font que pour aussi des raisons culturelles, d'amortisseurs sociaux, etc. On corrige pas super vite, mais voilà, la psychologie change plus violemment aux États-Unis et ça va percoler un peu plus lentement chez nous.
C'est vrai que ici dans la Silicon Valley, quand il y en a un qui se met à dégager, tout le monde se met à dégager, à faire des licenciements. Tout le monde suit, quoi, en fait. C'est un peu comme une échappée, quoi, en fait, dans le Tour de France. Hein. Il y en a un qui part et tout le monde part avec lui et se met à dégraisser le mammouth s'il y avait du gras. Et on a vu des vagues de licenciements se passer ces dernières semaines. Ça, c'est toujours le cas. La raison, moi, j'explique, c'est que, en fait, ça permet de ne pas avoir à expliquer qu'on a des problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde dégage, donc tout le monde dégage en même temps et on met ça sur le dos de la crise. Comme ça, on n'a pas à expliquer, on n'est jamais pointé du doigt individuellement parce qu'on est au milieu du peloton, quoi. Grosso modo, on fait comme tout le monde. Et donc, effectivement une attitude très Silicon Valley qu'on ne retrouve pas en Europe, ça, Jean. Il n'y a pas ce genre de phénomène-là. Quand il y en a un qui dégage, on va prendre le temps de bien le critiquer, de dire « Ah ouais, mais de toute façon, sa boîte, elle n'allait pas bien, quoi, en fait. Et regarde, moi, je ne dégage pas. » Alors que les Américains, ils sont beaucoup plus pragmatiques. « Oh putain, ils dégagent ! » Oh, bah, on n'a qu'à tous dégager, quoi, en fait.
Ouais, alors c'est vrai, mais aussi, en Europe, on n'a pas les mêmes niveaux de burn que les Américains, quoi. Les Américains, tu vois, Lina le disait très bien, tout est dans l'excès. Donc, t'as l'excès sur les valos, t'as l'excès quand ça dégage, t'as l'excès quand tu burnes et t'as l'excès quand tu vires, quoi. Ouais. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile d'agir. Enfin, c'est pas beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus évident d'agir face à l'extrême que d'agir quand t'as une espèce de ventre mou d'un truc où tu sais pas trop, tu vois. T'es une boîte.
Ouais, mais en fait, je burne pas tellement, quoi. Donc, ouais.
Enfin, tu vois, tu te traînes un peu. Ouais. Alors que quand t'es face au mur et que tu vas te le prendre à 200, c'est sûr que tu mets les deux pieds sur la pédale de frein, quoi.
Bon, c'est vrai aussi qu'en 10 ans, les investisseurs, je faisais en préparant cette émission quelques recherches, ont injecté 1300 milliards de dollars dans des startups. Ils ont produit chaque année des centaines de startups dont les valorisations dépassent le milliard de dollars. Ça a suscité d'ailleurs l'intérêt de plein de nouveaux investisseurs et de fonds spéculatifs de premier plan. Le fonds de capital risque, ils ont levé 132 milliards de dollars pour investir dans des startups en 2021. C'est le double du montant de 2019, hein, et c'est 6 fois le total levé il y a 10 ans. Donc, on est vraiment dans une profusion de cash. Est-ce que au quatrième trimestre de l'année dernière, les investissements en capital risque ont atteint un record de 95 milliards de dollars? Mes chiffres sont de PitchBook Data, hein, qui un peu la référence en tout cas ici dans la Silicon Valley. Est-ce que, moi c'est une question que je ne le pense pas, mais je vous pose la question, Pia et Lina, vous pensez qu'il y a eu trop d'argent investi dans la tech ces dernières années?
Alors, est-ce que je pourrais pas parler en valeur absolue? Après, ce qu'on a observé, c'est qu'en effet, dans la fin de l'année dernière, il y a des sociétés qui ont levé des énormes montants par rapport au stade de développement où elles en étaient, et donc qui ont brûlé beaucoup plus que ce qu'elles auraient brûlé si. On a vu en fait une espèce de trend, je dirais, où avant c'était seed pré-product market fit, série A post-product market fit. Et quand on a un modèle économique, et du coup, quand on commence à lever beaucoup d'argent, on lève de l'argent dans un business qui marche. Et là, on a commencé à avoir un décalage. On a eu un certain nombre de sociétés qui ont levé des très gros montants avant d'avoir prouvé qu'elles avaient un modèle qui marche. Et donc ça, dans ce sens-là, si tu brûles de l'argent dans un modèle qui marche pas, tu jettes de l'argent par la fenêtre, entre guillemets. Et on a vu des comportements d'excès sur ces valeurs-là. Après, en valeur absolue, et surtout nous, quand on compare, je crois, l'Europe et les US, j'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que ce que j'avais lu récemment, c'est que on est encore quand même bien derrière les US en Europe. Et donc, c'est pas de la valeur absolue, je pense que c'est plus du cas par cas où il y a eu des excès.
Est-ce qu'on peut reprocher ça aux entrepreneurs, Elina? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu le jeu de fonds d'investissement comme Quatu ou D1 Capital Partners qui sont rentrés dans le jeu et qui ont très vite fait des propositions en injectant énormément de cash aux entrepreneurs? Est-ce qu'on peut reprocher aux entrepreneurs d'avoir pris finalement le cash qu'on leur proposait, quoi?
Alors, ouais, je trouve que c'est pas évident de refaire l'histoire. Je ne voudrais pas dire qu'il y a trop d'argent qui a été investi. Si on doit avoir le verre à moitié plein, Mais enfin, c'est génial ce qui s'est passé en 2021. Il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans la tech en Europe. C'est formidable. Comme le disait Pia, ça reste toujours un petit montant. L'Europe, c'est 17% des investissements mondiaux en tech, donc c'est encore embryonnaire et on peut se réjouir que l'Europe fasse partie du radar désormais de tout un tas d'investisseurs. Ces investisseurs, ouais, ils sont en ce moment plutôt sortis du marché parce que c'est par nature, ils sont peut-être un peu plus volatiles, etc. Mais l'Europe est dans cette est apparue sur la carte de la tech. Génial. Deuxième chose, on a montré qu'il y a probablement eu des excès, c'est très clair, on va le voir, et voilà. Génial, il y a des boîtes qui ont levé des centaines de millions d'euros à raison, parce qu'elles ont des produits formidables, des équipes ultra crédibles, pour la plupart, beaucoup de revenus qui justifiaient de lever autant de capital, donc super bien. Et je pense que pour la majeure partie des boîtes qui ont levé beaucoup de capital en 2021, elles vont naviguer ce cycle qui va certes être difficile, mais elles vont bien naviguer justement parce qu'il y a eu beaucoup de capital. Donc, ce beaucoup de capital, il est assez protecteur parce que on a le temps de voir venir, on a le temps d'investir,
de construire,
voilà. Donc on a le temps d'utiliser, de le faire travailler, d'utiliser pour racheter d'autres boîtes qui pourraient du coup souffrir du cycle actuel. Donc réjouissons-nous d'avoir placé l'Europe sur la carte du capital du VC et du growth, en tout cas dans des proportions qu'elle mérite, j'espère. L'enjeu maintenant, c'est de naviguer ce cycle de façon la plus prudente possible. Les entrepreneurs, ils ont eu raison de prendre ce cash-là, ils ont eu raison d'avoir des tours qui leur étaient plus favorables. En tout cas, notre métier, c'est de comprendre, et côté dirigeant aussi, et nous, on doit les épauler là-dedans, c'est de comprendre quand le marché est favorable, et donc du coup, d'en profiter un maximum et de financer au mieux sa société en diluant le moins possible. Et c'est de comprendre aussi quand la psychologie elle a changé et quand le marché a changé. Et du coup, en profitant du marché, ben, effectivement, quand on va dans l'excès, on risque de mettre sa structure de capital à risque et sa boîte à risque, donc il faut quand même être prudent. Mais le rôle d'un dirigeant et le rôle des actionnaires que nous sommes, c'est de les accompagner pour naviguer ces cycles-là.
Mais justement, sur accompagner les entrepreneurs pour comprendre ces cycles-là, moi, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, ils ne comprennent pas, hein. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, les choses se sont arrêtées. Pour eux, ils étaient dans leur focus, en fait, sur leur start-up. Est-ce qu'on peut leur expliquer, qui veut expliquer ici aux entrepreneurs, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Parce que moi, on me disait, t'emmerde pas avec le business model, continue à builder, grille du cash, machin, rien. Et puis tout d'un coup, là, en l'espace de quelques semaines, tout s'est arrêté et beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à comprendre cet arrêt brutal. Je ne sais pas qui a une explication simple pour expliquer pourquoi est-ce que le monde a changé brutalement comme ça en quelques semaines. Jean, tu as une explication? Qu'est-ce que tu dis, toi?
Moi, je dis que là où on est actuellement, c'est comme une règle de 3 à l'entrée d'école de commerce, tu vois. Tu fais passer une règle de 3 à 100 personnes, t'en as la moitié qui vont foirer la règle de 3, quoi. La règle de 3, c'est le truc le plus bête au monde. C'est le bon sens appliqué au business. Aujourd'hui, si les mecs comprennent pas que les euros investis, tu vois, doivent délivrer du retour, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand t'as investi trop d'argent, que t'as mis tout le monde en sur-régime, tu peux pas délivrer du retour parce que tout le monde fait la baston pour les clients, tout le monde fait la baston pour les talents, tout est overpriced et en fait tout explose, quoi. Tu vois, c'est comme aller à un mariage, t'as la soirée de vendredi, t'as la soirée de samedi, si tu mets une énorme tôle le vendredi soir, tu pourras pas tenir le samedi soir, tu vois. Bon, bah là c'est pareil, hein. Donc à un moment donné, il faut couper, tu vois, il faut couper l'alcool avec de l'eau, quoi. Donc les mecs ils sont là, ils investissent. En fait, ils se rendent pas compte que la valeur de l'euro qu'ils ont investi, elle délivre, tu vois, les gains marginaux sont décroissants au bout d'un moment. Donc là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on va retourner à un niveau qui va être bas, où on va avoir mal. Mais du coup, les gains marginaux créés avec les euros dépensés vont avoir beaucoup plus de valeur qu'auparavant, parce qu'il y aura plus de talent, parce que ce sera moins la guéguerre sur les levées de fonds, ce sera moins la guéguerre pour les clients. Et voilà, il n'y a rien qui survit en sur-régime. Ça n'existe pas. Donc, t'as mis le marché en sur-régime de cash, tu le payes. Fin de l'histoire. Voilà. T'en as profité avant, t'as pris du cash, t'as 200 bars en banque aujourd'hui, alors que tu fais que 50 millions d'ARR. Good for you. Profites-en.
fait ce qu'il faut avec ces 200 millions de dollars. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Elina, qui est de dire, bah, tant mieux que les mecs aient été fundés de manière extraordinaire l'année prochaine. C'est maintenant qu'ils doivent démontrer leur talent, de mettre l'argent au travail de la bonne manière, quoi.
Puis il y a, les entrepreneurs sont prêts à changer de braquet, parce que là, ce qu'expliquent Elina et Jean, c'est bah, il va falloir changer la façon de faire. Est-ce que les entrepreneurs, tu les penses prêts? Parce que comme je disais, ça fait 13 ans qu'ils vivent dans une phase d'euphorie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont jamais non plus connu la crise. Hein. Et ça, c'est une vraie question ici dans la Silicon Valley. Les VC regardent leur portefeuille et se disent, OK, ils sont où mes gorilles cendrés? C'est-à-dire, ils sont où les entrepreneurs dans mon portefeuille qui savent changer et se mettre en mode winter et plus en mode summer avec des jouets de plage? Comment tu analyses ça, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont prêts à changer de braquet tout de suite?
Oui, bah, je pense que ça, y en a, ça a pris quelques jours, d'autres quelques semaines. Mais là, maintenant, on est quoi? On doit être 3-4 semaines après le début vraiment les mémos de YC, Sequoia, etc. Je ne sais plus quand c'était, quoi, 2-3 semaines. Les entrepreneurs, en tout cas, dans lesquels nous, on a investi, et la plupart en venture, ils ont tous face à un mur qui est la fin de leur cash, parce qu'il n'y a aucune boîte dans laquelle on a investi qui est profitable. Et ce mur, en gros, il est plus ou moins loin. Et je pense que plus ce mur est prêt, plus ils ont conscience, parce que les valos du prochain round, ce ne sera pas les mêmes. La barre, elle est beaucoup plus haute. Et donc, nous, la plupart des entrepreneurs avec lesquels de notre portefeuille, avec lesquels on discute, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien compris. Après, personne ne sait exactement combien de temps ça va durer. Donc, nous, on recommande aux entrepreneurs de faire en sorte d'avoir au moins 24 mois de cash de façon générale. Est-ce que ça sera suffisant? On l'espère. Et puis, sinon, on réadaptera l'année prochaine.
Et justement, sur cette question-là, Jean, on a vu beaucoup de boîtes, notamment en pré-seed et en seed, de pas non plus lever trop de cash pour favoriser en fait la valorisation, en se disant « c'est pas grave, je releverai dans 6 mois ». Et on a pas mal de startups early stage qui ont dit « Non, mais je ne lève pas beaucoup là parce que de toute façon, le marché, il est toujours disponible. » Sauf que là, effectivement, elles n'ont pas levé et elles n'ont pas ces 24 mois de cash parce qu'elles pensaient relever – c'est mon cas avec ma startup – mais elles pensaient relever que le marché serait continuerait à être porteur. Donc, il y a aussi pas mal de startups dans cette situation aujourd'hui.
On n'en a pas trop dans notre portefeuille.
Qui n'ont pas 24 – et tu n'as pas beaucoup de startups qui ont moins de 24 mois.
Non, j'en avais pas beaucoup de startups qui n'ont pas levé beaucoup en se disant « Je lèverai plus dans pas longtemps, ça va bien se passer. » Ouais. En revanche, il y a deux choses. Bon, la première, c'est faut que les entrepreneurs comprennent les maths du VC, quoi. Les maths du VC, c'est que tu perds l'argent qu'une fois, mais tu peux le gagner 100 fois. Et donc, en fait, tu as 5% des boîtes qui vont faire 95% des retours. Donc, moi, je reçois aujourd'hui 2 à 3 appels par semaine de boîtes qui vont mourir dans les 6 mois. Ils me disent « Je fais quoi ?» Et je dis « En fait, c'est simple. Hein. Soit tu as un business qui a des fondamentaux solides, tu t'accroches, tu fais l'entrepreneur et pas le touriste, oui, startup, et puis tu fais ta boîte. Et puis ça va bien se passer. Et si ça se passe pas, eh ben mec, tu sais quoi, tu fermes, tu tiens un bon coup et puis tu repars, quoi. Mais en fait, ils t'appellent en espérant que tu vas faire des miracles. Moi, j'ai 3 personnes qui m'appellent chaque semaine en ce moment en me disant « Hey Jean, salut, je t'appelle, c'est pour un miracle. » Mais je suis pas Jésus, moi. Tu vois, donc je vais pas, tu vois, l'argent il tombe pas comme ça. Tu fais 200K de MRR, tu trouvais ça extraordinaire, sauf que sur les 200K de MRR, en fait tu fais que un tiers de marge et tu voulais lever 7-8 millions, parce qu'on, soyons fous, en fait dans un marché normal t'aurais plutôt levé je sais pas 3-4. Et donc le problème, c'est que tous les investisseurs que t'as vus, tu vas les revoir et ils te disent tout, désolé, en fait le shop il est fermé parce qu'on s'occupe de ce qu'on a en magasin et on accepte plus personne dans la boutique, quoi. Donc ça va être dur.
C'est peut-être pas la même chose côté late stage, ça, Elina, parce que quelque part vous pouvez pas vous permettre d'avoir ce genre de comportement un petit peu laisser les boîtes mourir si elles doivent mourir, quoi. En fait, vous avez investi beaucoup de cash dans certaines de ces boîtes, il faut qu'elles réussissent, quoi. Donc vous avez, ou alors non, au contraire, vous avez le même type de comportement avec les boîtes que ce que décrit Jean en late stage.
Oui, en fait, dans notre métier, il est un peu différent et notre construction de valeur et de portefeuille, elle est différente. Donc nous, on a vocation à ce que, si ce n'est pas 100%, mais la très, très, très grande majorité de nos sociétés, elles délivrent du retour. Et en revanche, nous, la marge de manœuvre qu'on a au stade où on investit, c'est que c'est des sociétés qui génèrent du revenu, qui donc dans notre cas, on image très, très saine. Et en fait, en orientant un peu différemment la croissance, tu peux très largement réduire ton cash burn. Tu as passé les
étapes de product
market fit. Donc, tu continues certes à investir dans ta R&D. Il ne faut pas trop te compromettre là-dessus. Mais tu n'as pas besoin de faire sortir une boîte de terre. Donc, la boîte, elle est sortie de terre. Elle a du revenu, des clients. Et donc, on peut orienter différemment les profils de croissance pour s'assurer qu'on est en runway, etc. Donc, on n'est pas dans cette discussion de est-ce qu'on doit fermer la boutique. On est plutôt dans la discussion de jusqu'où on est en runway. Est-ce qu'on saisit le marché actuel justement, puisqu'on pense que nous, pour le coup, on est plutôt en position de force parce qu'on a un portefeuille qui est jeune, hein, du parent, on a commencé à investir en 2019, et donc il y a pas mal de cash. Donc, est-ce qu'on utilise l'environnement actuel pour justement être un consolidateur? Et donc, les boîtes qui sont plus en difficulté par rapport à nous, ben, en fait, elles peuvent devenir nos cibles. Donc, nous, c'est vrai que la logique est un peu différente. Et ce qui est particulier, c'est qu'on est... Je pense qu'on soutient autour de cette table des entrepreneurs qui n'ont pas forcément vécu beaucoup de cycles pour certains d'entre eux. Donc, c'est leur faire comprendre voilà, dans quel cycle on est en train de rentrer. Les cycles, c'est normal. Il y en a de différentes durées et pour différentes raisons. Là, il y a plein d'éléments aussi exogènes qui sont venus impacter notre industrie. Je le rappelle, les fondamentaux sont bons. Enfin, moi, le Q1 de boîte, il est au budget. C'était un budget fait en novembre 2021, donc au pic du cycle. Le Q2 est extrêmement bon également. Donc, pour le moment, les fondamentaux sont bons. Après, naturellement, on voit les chiffres de l'inflation et puis les différentes pressions qu'on peut observer. Donc, naturellement, on se prépare à ça. Mais les fondamentaux de notre marché sont bons, ce qui justifie qu'en seed et en série A, on continue d'investir. Et à notre stade, nous, on continue à coller à nos convictions de fond sur un certain nombre de thématiques. Et au contraire, on se dit que la situation actuelle est propice pour nous à consolider et puis d'ailleurs à continuer à investir dans des contextes un peu plus simples.
Alors, je parlais avec un investisseur, j'avais un dîner hier avec un investisseur américain qui me disait, mais tu sais, il y en a beaucoup hein, qui profitent aussi de cette situation, qui cherchent à, soit parce qu'ils ont beaucoup de liquidités encore, et qu'ils se disent, non mais tu déconnes, c'est les soldes. C'est génial qu'en fait je peux revenir sur des tours où j'ai pas pu participer auparavant à une valorisation pratiquement identique du tour d'avant avec des boîtes qui ont pourtant progressé. Il y a aussi des il me disait, je vais pas donner son nom, mais il me disait je pousse aussi certains de mes entrepreneurs à vendre, à céder, ce dans lequel je crois pas forcément pour recréer de la liquidité, pour réinvestir en fait dans des startups parce que c'est les soldes encore. Ils sont très pragmatiques hein, les Américains quoi, en fait hein, ils se disent en fait on a l'impression que dans ce jeu là c'est un peu toujours les investisseurs qui gagnent à la fin quoi, en fait c'est un peu comme dans le foot hein, c'est toujours les Allemands qui gagnent en finale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de quelque part de cynisme aussi des investisseurs, en tout cas ici aux États-Unis on le voit un petit peu, qui agitent un peu les bras en disant oh mon Dieu c'est terrible machin etc, mais ils ont levé beaucoup beaucoup d'argent, ou ils continuent d'ailleurs à en lever beaucoup. On voit Andreessen Horowitz qui annonce encore une fois un nouveau fonds de plus de 4 milliards de dollars et qui se disent mais non mais c'est génial quoi, c'est ce qui se passe en ce moment. Pia, est-ce qu'il y a une forme de cynisme de certains investisseurs, en tout cas les Américains sont un peu plus cyniques peut-être face à la situation?
Ouais, c'est possible. Écoute, ça fait que quelques semaines, donc on n'a pas encore eu beaucoup d'exemples, mais on a en effet vu déjà un ou deux cas d'investisseurs américains plus late stage qui profitaient d'une position de force pour rechanger les termes de valo sur lequel ils s'étaient engagés, changer les montants.
On voit réapparaître des ratchets. On n'avait pas vu ça depuis un petit bout de temps.
Ça, c'est en effet des fonds qui sont très transactionnels et qui profitent. J'aime pas le mot. On le voit. Je ne peux pas donner de nom ou d'exemple précis, mais je suis d'accord avec ça. Nous, ça reste à l'encontre de ce qu'on fait. Nous, comme Jean l'a expliqué, on est dans un monde où c'est 5% des boîtes dans lesquelles on va investir qui vont réussir et driver 95% des returns. Et c'est pas une ou deux petites clauses ou un petit truc d'ajustement à la marge qui vont changer la valeur absolue quand on se dit qu'on va backer des boîtes qui vont valoir plus tard, à long terme, plusieurs dizaines de milliards.
Vous avez changé, Elina, chez Revaya, vos termes compte tenu de la situation sur certains de vos deals?
Non, on n'a pas de retraité de deal. Néanmoins, on le voit apparaître dans le marché. Et en revanche, ouais, c'est clair que là, on voit de façon opportuniste des propositions de remettre plus d'argent au M-Prix 2021, donc ça, et on nous propose. On voit des secondaires à moins 80% de la valo de l'année dernière. Donc voilà, tous ces trucs-là, on les voit. Et là encore, pour reprendre les termes de Jean, les maths du VC, c'est assez simple. Enfin, les vintage de fonds, les 2021, etc., vont être potentiellement mauvais en termes de pertes. En tout cas, si c'est des fonds qui ont investi avec assez peu de discipline, parce que quand tu investis sur un haut de marché, c'est assez dur en perte derrière. Et donc, il y a des fonds qui saisissent ça pour moyenner à la baisse leur prix d'entrée et puis continuer à baisser leur prix. Donc, il y a forcément un peu de maths qui se fait côté investisseur. Mais là encore, je pense que ça dépend des styles de gestion des uns et des autres. Donc, c'est pas un style qui s'applique à nous. Et par ailleurs, on pense qu'on n'a pas été excessif en 21. Donc, on est assez à l'aise. Et en 22, on est assez à l'aise sur ce qu'on a fait.
Alors vous êtes dans Silicon Carnet, cette semaine on parle de la crise qui touche le monde de la tech et le monde en général d'ailleurs, on va en reparler un petit peu parce que ça touche pas forcément que le monde de la tech. Je suis en compagnie de Jean de la Roche-Brochard qui est Managing Partner chez Kima Venture et co-fondeur de New Wave, et j'ai aussi justement sa co-fondatrice avec moi, Pia Dirban, co-fondeur et Managing Partner chez New Wave, et on est aussi en compagnie de Elina Berebi qui est Founding Partner chez Revaya, et on parle ensemble de cette crise qui touche aujourd'hui le monde de la tech et le monde en général. Si vous appréciez Silicon Carnet, n'hésitez pas à le faire savoir. La meilleure façon d'aider cette émission, c'est de partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux. Et merci d'avance pour tous vos messages que je reçois sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. Alors, on continue cette émission et en vous écoutant, je me disais un truc tout à l'heure, je me posais la question, est-ce qu'on est dans un scénario à la 2001, 2008 ou est-ce que c'est tout autre chose? En 2001, le crash des dot-com qui a duré, il n'a même pas commencé en 2001, il a commencé véritablement en 2000. En 2002, il a duré presque 3 ans. Il était essentiellement dû à une spéculation excessive des sociétés Internet, et quand on écoute Jean, on a l'impression qu'on était dans ce scénario de spéculation un peu excessive des sociétés Internet, et a été aussi alimenté par un marché qui était très haussier à la fin des années 90, ce qui est aussi le cas aujourd'hui, quand on regarde les marchés étaient très très haussiers, en tout cas jusqu'en novembre. Et quand on regarde 2008-2009, c'était une crise qui n'a pas été initiée par la technologie, mais qui était plus une sorte de cratérisation de l'ensemble de l'économie, qui avait d'ailleurs commencé avec la bulle des actifs sur le marché de l'immobilier. Et on regarde aujourd'hui, on se dit, ouais, mais il n'y a pas que la spéculation excessive des sociétés Internet, il y a aussi une forme de cratérisation de l'ensemble de l'économie. Donc on se dit, est-ce qu'on est dans 2001, est-ce qu'on est dans 2008, ou est-ce que, pire encore, on est dans un scénario qui combine 2001 et du 2008, et donc auquel cas, 2008-2009, ça avait duré à peu près 1 an et demi, la crise. Donc là, cette récession post-Covid qui commence aujourd'hui en 2022, vous l'analysez comment? Jean, à ton avis, on est dans quel type de scénario, ou est-ce que c'est encore un troisième scénario?
Déjà, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la courbe des taux d'intérêt et de l'inflation se recroise pour qu'on puisse repartir sur un cycle haussier. Et puis, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, de toute manière, tout actif qui monte, à un moment donné, finit par s'écrouler. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, les politiques monétaires, à la manière dont on gère ces crises, font que les cycles sont très intenses, et donc la crise là, enfin, ça tabasse, et donc le marché s'est complètement écroulé, et tant mieux, parce qu'en fait, il faut qu'il s'écroule vite pour qu'il puisse remonter, quoi. Parce qu'en fait, si c'est trop long, tu vois, une agonie lente, c'est l'enfer, quoi. Donc, il vaut mieux passer par quelque chose d'un peu brutal, qui va durer, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, peu importe, pour qu'après on puisse remonter. La problématique que ça a quand même, c'est que, en fait, le problème de 2008-2009, comme le problème d'aujourd'hui, c'est que l'inflation, elle touche pas ceux qui sont pas à 50 balles près sur la facture d'électricité ou sur leurs pattes, quoi. Mmh. Donc ça fait chier, en fait. C'est juste que c'est toujours les mêmes qui payent.
T'as toujours les mêmes, hein, d'ailleurs.
Donc, là, on parle de start-up, on est tranquille, c'est cool. Là, on finance des boîtes qui vont faire 100 fois la mise. Pendant que t'as l'autre qui regarde sa facture de gaz monter et qui, quand il va chez Lidl et qu'il achète ses pâtes, il a envie de pleurer, quoi. Donc, ouais, la vraie problématique de cette crise, là, c'est l'inflation. C'est très sale. Donc, il y a 10 ans, c'était les maisons. Tout le monde perdait sa baraque aux États-Unis. Et maintenant, tout le monde perd son pouvoir d'achat.
Tout le monde perd son salaire.
Ouais, c'est chaud. C'est chaud, quand même. Mais nous, est-ce qu'on est mal lotis ? On n'est pas mal lotis.
Et va se rajouter à ça une vague de licenciements, forcément, quoi, en fait.
Ouais, mais ça, c'est pas grave dans notre métier, parce qu'on avait un problème de scarcity des talents. Donc, ouais. On mettait beaucoup d'argent au travail pour essayer de trouver des talents, sur les qu'on avait du mal à fidéliser, qu'on avait du mal à engager. Et là, en fait, à un moment donné, tu vois, il faut que le rapport de force se retourne un petit peu. Et quelqu'un qui a envie de bosser, il trouve du travail, toujours. Hein. Donc, je suis pas trop inquiet pour ça dans la tech, honnêtement.
Elina, est-ce que c'est vrai, comme dit Jean, on a eu 10 ans de taux d'intérêt super bas. Est-ce que c'est aussi ces 10 années de taux d'intérêt bas qui ont quelque part gonflé un peu ces valorisations qu'on a vues, parce que l'argent était pas cher, quoi, grosso modo. Et aujourd'hui, on le voit, qu'il y a une correction des taux d'intérêt assez sévère. Est-ce que oui, c'est ça? Est-ce qu'on n'a pas vécu dans un monde où l'argent, en tout cas pour certains, était devenu une sorte de commodité? Et on est face à une mauvaise répartition des richesses, parce qu'aujourd'hui, on a une crise qui touche d'autres secteurs et d'autres classes sociales pour qui, eux, l'argent n'est pas une commodité, quoi, en fait. Et là, ça serait une perfect storm, hein, si on est dans ce scénario que décrit Jean, quoi, en fait. Hein.
Oui, et je pense, pour reprendre le point de Jean, on n'est pas dans des contextes de crise comme celui qu'on est en train de voir apparaître. Je pense que notre classe d'actifs, elle n'est pas à plaindre. Oui, il y a des contextes de taux et de macro qui font que est-ce que les retours de notre classe d'actifs vont diminuer structurellement? Probablement oui. Est-ce que tous les retours de toutes les classes d'actifs baissent dans des contextes de taux haussiers, en tout cas des écoutilles? Oui. Donc on va être touché, mais voilà, tout le monde a baissé en retour relatif, donc finalement on n'est pas plus mal lotis que nos classes d'actifs. Mais en effet, je pense que ce qui fait la vocation des investisseurs que nous sommes, c'est d'investir dans des innovations qui sont utiles, qui permettent un développement des entreprises, des PME et aussi des personnes. Et quand en fait on est dans des crises qui affectent l'ensemble de la population et l'ensemble de l'économie, c'est quelque chose qui déjà nous touche en tant qu'investisseurs, donc conviction. Et puis naturellement touche derrière le business. Donc notre préoccupation chez Avalior, la mission d'investisseur responsable qui est assez forte. Notre préoccupation, c'est de continuer à investir sur des besoins fondamentaux, de pouvoir aussi mitiger autant que possible sur les utilisateurs et sur les populations auxquelles on s'adresse l'impact de cette crise. Donc on a des boîtes d'éducation financière, on a différentes thématiques qui permettent d'adresser ça. Mais voilà, je pense que la crise d'actifs n'est pas à plaindre, même si ça va clairement secouer, ça a déjà commencé à être le cas.
Pia, tu crois que, comme dit Elina, ça va changer aussi la nature des deals qu'on va faire? Est-ce que tout d'un coup, on va voir les investisseurs se concentrer sur des deals qui ont un impact plus réel, en tout cas sur le quotidien des gens? C'est toujours un petit peu interrogatif quand j'entends les investisseurs me dire qu'ils sont des investisseurs responsables. Mais en tout cas, vu des États-Unis, ceux avec qui je parle aux États-Unis, c'est secondaire quand même, ce genre de truc. C'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup plus vrai. Chaque fois que je parle avec des investisseurs en Europe, on a le sentiment, peut-être que c'est la nature de l'argent qui leur est confié qui fait qu'ils ont une sorte de mission qui est différente. Mais est-ce que tu penses que, Pia, on va voir les investisseurs changer les sujets sur lesquels ils vont investir et privilégier des... Alors je sais que c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu le mot à la mode, j'ai l'impression, en France, des projets impact, des trucs comme ça, au détriment de projets un peu plus, qui paraissaient peut-être un peu plus triviaux.
Je pense que c'est un mouvement. Après, je suis pas sûre de voir vraiment le lien entre le downturn et le fait que les investisseurs vont privilégier plus d'investissements à impact. Pour moi, le downturn va... en tout cas, nous, là, ce qu'on nous dit, si vraiment il y a un changement d'orientation, c'est qu'on va encore plus se focus sur des business qui sont pas trop capital-intensive, donc vraiment du software par rapport à investissements qui demandent énormément d'investissements en hardware ou de prêts de capex, voilà. Le mouvement impact, on le voit parce que c'est un mouvement de la société dans son ensemble et que du coup, voilà, les consommateurs sont demandeurs de ça, les employés, et que nous aussi en tant qu'investisseurs, à chaque fois qu'on fait un investissement, on réfléchit un petit peu quand même plus à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, on a vu la climate tech exploser ces dernières années. Il y a quelques années, moi, quand j'étais chez Axel, un fonds généraliste n'allait jamais investir en climate tech. C'était pas du tout à la mode et c'était considéré comme un secteur spécialisé. Aujourd'hui, tous les fonds généralistes investissent et c'est considéré comme un secteur porteur, aussi pour des raisons économiques. C'est pas complètement bisounours. Donc nous, le premier investissement qu'on a fait, c'est une boîte qui s'appelle Sweep. Et voilà, c'est un peu les deux qui convergent. Est-ce que avec le downturn, ça va s'accentuer? Je suis pas sûr. En fait, je sais pas.
Jean, de ton côté, les conséquences pour les startups aujourd'hui. On est d'accord qu'on n'est pas prêt de voir de nouvelles sociétés entrer en bourse, hein. Dans les mois qui viennent, ça va être difficile. J'aurais peut-être dû poser la question à Elina, puisque vous travaillez justement à du pré-IPO. On va pas voir beaucoup de nouvelles sociétés entrer en bourse dans les prochains mois ou dans les prochains 18 mois. Faut pas s'attendre à ça. La liquidité, on va pas la trouver là, quoi, en fait.
Non, il faut pas s'attendre à ça. Mais ouais, là encore, c'est une question plus d'orientation. Nous, on a plusieurs sociétés qui sont en train de se préparer à être IPO ready. Et en effet, le IPO ready voulait dire 12 mois il y a quelques mois, et il veut dire quelque chose de un peu plus indéfini. En ce moment, quelque chose de plus ouvert. Et ce que veut dire aussi l'IPO ready à ce moment, c'est qu'en fait, on sait plus trop la qualifier. Il y a quelques mois, on savait bien qualifier. En fait, un certain standard de boîte avec une certaine taille de métriques, on prend ça, c'est 200 millions de revenus médians, etc. Différents métriques auxquels on pouvait se raccrocher. Aujourd'hui, ce référentiel de métriques et de taille et de profitabilité, il est complètement bousculé. On ne sait pas quel sera le nouveau référentiel, ce qui fait que pour les boîtes qui étaient en train de se préparer à une entrée en bourse, l'enjeu est de pouvoir montrer aux investisseurs ce qu'ils auront envie de voir le moment venu. Ça va être notamment de la profitabilité a priori et probablement des seuils de taille plus importants qu'avant. Puisque si on dit que les valos ont baissé sur les marchés, ça veut aussi dire que il faut atteindre une plus grosse taille pour lever le capital qu'on envisageait de lever. Donc voilà, il y a des paramètres qui changent et on ne sait pas où ils vont atterrir. Et du coup, dans ce contexte-là, les boîtes doivent le plus possible travailler au fait de pouvoir orienter les choses dans la direction qu'elles le souhaitent et de montrer de la rentabilité si on veut en avoir plus ou montrer de la croissance à un moment si ça revient.
Mais Elina, s'il n'y a plus d'entrée en bourse aux États-Unis de start-up, que ce soit au Nasdaq ou même au New York Stock Exchange, est-ce que ce rêve fou que nourrit l'Europe d'avoir enfin sa bourse, est-ce que tout d'un coup, ça va favoriser une bourse européenne? Ou au contraire, non, pas du tout. C'est-à-dire que ce rêve fou, on le remet au placard, quoi, en fait, et on oublie les entrées en bourse éventuelles de sociétés sur le marché européen?
Je pense qu'il y a un mouvement de fond.
Thierry Breton nous écoute, hein, donc allez-y, n'hésitez pas.
Ce qui est formidable et qui ne doit pas être arrêté, c'est plusieurs dynamiques. On a déjà cité avant, en fait, vous pouvez se féliciter que l'Europe était sur la carte d'investissement de tech, growth, etc. On peut se féliciter qu'il y a un mouvement de fond de la part des investisseurs institutionnels européens, des fonds de growth, des acteurs des marchés cotés qui se mobilisent aussi en Europe pour développer des places de cotation européennes plus dynamiques. Et donc ça, c'est un mouvement de fond. Clairement, est-ce que la fenêtre d'IPO elle est fermée en Europe aussi? Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a fondamentalement la volonté de faire plus IPO en Europe? Oui, ça va continuer. Maintenant, ce mouvement, il est clairement ralenti.
Vous ne conseillez pas ça à vos boîtes, quoi, en fait, de miser sur une entrée en bourse en Europe, quoi, aujourd'hui.
La discussion ne prend pas forcément ce format-là. C'est déjà dans certaines catégories, il y a une discussion qui est forcément très tournée au Nasdaq, quand notamment tu as décidé à un moment d'incorporer ta boîte aux États-Unis, tu es un peu naturellement tenté d'aller là-bas. Mais il y a au contraire d'autres sociétés qui se sont peu développées aux US, mais ils sont très gros, sont en Europe et très solides, donc il y a probablement moins d'intérêt d'aller chercher du capital américain. Donc il y a vraiment plein de paramètres qui font que c'est pas forcément toujours le Nasdaq, et je sais que les places européennes travaillent à ce qu'elles deviennent plus attractives. Je pense qu'Amsterdam a fait un gros effort, donc il y a un mouvement de fond, la fenêtre elle est pas maintenant, tout décale. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans les grandes masses, le poids de l'Europe grossit dans la tech. Qui dit que ce poids de l'Europe grossit dit que mécaniquement le poids de notre cotation tech, elle va augmenter. Mais on est clairement dans les grandes erreurs, on n'est pas du tout. Mais il y a une volonté forte.
C'est pas
short
terme, quoi.
Non, c'est pas short terme.
Donc, grosso modo, je suis un entrepreneur, je peux pas aller chercher de l'argent en bourse si je suis plutôt late stage en ce moment. Ce que je fais, long story short, ce que tu viens de nous dire, c'est grosso modo, les WC sont fermés de l'intérieur, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, en tout cas à court terme. Le marché du crédit, il se tarit parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et les VC n'arrivent plus à fournir le cash comme ça a été le cas en 2008. Donc du coup, on est dans une situation qui pourrait rapidement dégénérer. Et puis on a un tas d'unicornes aujourd'hui.
Y a quand même une tonne de dry powder. En fait, tout le marché, tous les VC, etc. Tout le monde a beaucoup levé en 2021. Tout le monde a beaucoup investi. Il y a quand même de l'argent qui est en train de travailler.
Alors justement, on arrive un peu au terme de cette émission et c'est une question que j'avais pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur aujourd'hui? Quels conseils, Pia, tu donnes aujourd'hui aux boîtes de ton portefeuille? Tu dis, là, c'est pas le moment d'aller faire un roadshow VC et dire que vous levez de l'argent. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? De faire un bridge? Quels sont vos conseils sur les valorisations?
Alors nous, on n'est pas encore à cette stade-là, et je pense un peu comme Elena, on a la chance d'être assez récent, et la plupart des boîtes dans le portefeuille ont levé des très gros upround en fin 2021, donc ont plutôt...
Super.
4 à 50 cash que moins de 18 mois. Après, on a quelques-unes qui ont moins de 18 mois et qui voulaient lever cette année. Moi, à court terme, je leur conseille pour l'instant de se focus à fond sur le business. Je pense quand même que dans tous les cycles, les meilleurs vont survivre. Et si tu es très bon, et même s'il y a moins de capital, le peu de capital qu'il y aura, tu l'auras. Donc nous, on les conseille à très court terme de se focuser sur les très bonnes news business, de continuer à pousser comme ça jusqu'à cet été. Et puis voilà, si t'es dans le top 1 ou 5%, t'arriveras à lever de l'argent. Et c'est là que tu peux créer de la valeur aujourd'hui, plus que d'avoir des 50 milliards de conversations avec des VC qui te parlent pendant la moitié du call de la crise et de à quel point la crise c'est relou.
c'est vrai.
Voilà, je pense que c'est pas un bon moment pour faire le tour des VC.
Jean, ton conseil aux entrepreneurs aujourd'hui, early stage, le même que Pia ou quelques ajustements aussi
Non, mais back to first principles, tu vois. Pourquoi est-ce que tu dépenses un euro? Pourquoi est-ce que tu embauches quelqu'un? Qu'est-ce que fait cette personne-là? Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont conscience que c'est le moment où il faut vraiment cravacher pour faire la différence, tu vois? À quel point est-ce que tu as pris conscience de la gravité de la situation? Et gravité, ça veut tout dire. Hein. C'est pas que négatif. Hein. C'est aussi un moment grave, donc il faut l'honorer et donner le maximum. C'est dans ces moments-là que les entrepreneurs font la différence. Donc, s'ils voulaient avoir le moment de gloire, c'est maintenant qu'ils peuvent l'avoir. Donc, il faut qu'ils aillent le chercher.
Et ils ont créé une startup pour vivre la vie des startups. Et voilà, là, ils ont l'occasion de véritablement vivre ce que c'est qu'une startup, parce que c'est dans ces cas-là qu'on sait ce que c'est qu'une startup. Moi, je donne le conseil. Moi, j'essaye de rester optimiste avec les boîtes de Diaspora Ventures et je leur explique, pour avoir passé plusieurs crises, en fait, tout va être plus facile, sauf le fundraising. Mais tout le reste va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Le recrutement, le marketing va être moins cher, la compétition va être moins féroce, les choses vont se ralentir, vous allez avoir du temps pour vous concentrer et vous allez devoir aussi faire des choix et vous concentrer sur les bons projets et abandonner des projets qui ne sont pas forcément les plus porteurs à court terme. Toi, de ton côté, Elina, hier, l'investisseur avec qui je dînais me disait, son conseil, c'est assurer une marge de manœuvre de plus de 30 mois. C'était ça son conseil. Alors encore une fois, avec tout le cynisme qu'on connaît des investisseurs américains, est-ce qu'il n'y a pas là une volonté aussi de dire prends mon cash et baisse ta valorisation et donne-toi 30 mois de runway et comme ça moi je fais une bonne affaire? Est-ce que toi aussi c'est cette marge de manœuvre que tu conseilles aux start-upers, ces 30 mois?
Ouais, je pense qu'on le conseille avec pas vraiment de cynisme, mais plutôt du pragmatisme, c'est de se dire, en ce moment, faut avoir du runway jusqu'à H2 2024 tranquillement.
H2 2024.
Ouais. En tout cas, tu vois, tu peux passer 2022 évidemment tranquille, 2023 c'est je pense, un exercice assez imprévisible, donc tu veux le passer tranquillement aussi. Donc c'est ça qu'on leur conseille, et c'est pas de façon cynique. Et nous, de façon peut-être un peu plus agressive ou conquérante, on dit que, bon, d'une part, il faut contrôler ce que tu arrives à contrôler. Donc tout ce que tu peux, tout ce qui est entre tes mains, il faut être ultra bon. C'est ta lifetime value, c'est tes marges brutes. Donc tout ce que tu arrives à maîtriser, tu maîtrises.
Les plans d'embauche,
ouais.
Les dépenses de sales et marketing.
Le digital marketing, c'est des choses qui sont ultra variables. Donc, et en fait, c'est un bon moment pour tester l'élasticité de ton marketing. C'est aussi un bon moment pour tester tes prix, ton pricing. En tout cas, tant qu'il y a de la demande et que cette demande elle est pas molle, tant qu'il y a de la demande pour ton produit, il faut aller chercher toute la demande que tu peux aller chercher. Et si tu sens que ça se ramollit, c'est là en effet où il faut faire les ajustements. Mais en tout cas, t'as pas de raison d'arrêter d'aller chercher la demande tant que ça répond bien. Et en tout cas, cette crise, c'est une opportunité. Enfin, quand tu as une boîte solide, il faut qu'on sorte de cette situation beaucoup plus fort. Donc, en ayant peut-être tradé un peu notre papier pour acheter des boîtes, c'est vraiment saisir ce moment pour en sortir plus fort et pour avoir gagné des marchés à l'issue des parts de marché à l'issue de ça.
Ceux qui survivent à ça, et on l'a vu par le passé, ceux qui arrivent à passer cette crise-là, quand ils sortent de cette crise-là, bon, alors ils seront peut-être pas super beaux à regarder, mais en tout cas, ils seront toujours vivants. Cela risque généralement, ça donne de très très bonnes startups, y compris super early stage pour vous, Pia et Jean. La fille ou le mec qui décide de créer une startup aujourd'hui en 2022, en mai 2022, c'est pas un touriste qui a vu de la lumière, hein, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé, qui a de fortes convictions par rapport à son sujet. Vous êtes d'accord avec ça, Jean? Je te vois hocher de la tête.
Ouais, complètement.
C'est des bons entrepreneurs là qui se lancent.
Bah là, en fait, ce qu'on a, c'est que le deal flow est fait de moins d'entrepreneurs et de meilleurs entrepreneurs. C'est vraiment un moment pour nous. C'est horrible, c'est très cynique. Là, pour le coup, nous en seed et en pré-seed, on peut être cynique. C'est le meilleur moment. En ce moment, c'est extraordinaire. C'est là qu'on va pouvoir prendre du temps pour rencontrer plein d'entrepreneurs, choisir de bosser avec ceux, tu vois, avec qui on échange et qui ça se passe bien, sans se dire, putain, dans 48 heures, le deal, il est closé, parce que tout d'un coup, ouais. Index, Axel et Balderton ont décidé de se faire la guerre pour mettre 10 bars en pré-seed chez un opérateur qui avait fait 3 ans chez Elasticsearch.
Pia, t'es d'accord, la qualité du deal flow, tu le constates déjà, on voit déjà arriver des meilleurs dossiers. Le nombre a peut-être diminué,
bruit,
ou
ouais,
tu le constates
peu,
pas
un peu moins de bruit, ouais.
Ouais, un peu moins de bruit.
C'est assez, quand tu regardes l'historique... Airbnb, c'est la date de création, c'est je vérifie à l'instant, 2008. Mais c'est août 2008, Uber c'est mars 2009, donc il y a des boîtes formidables qui se sont créées dans ces temps-là, et en effet avec à leur tête des gens qui étaient chevronnés, voilà, ça fait le tri.
Il y a aussi un phénomène, c'est que quand on est dans un bull market, vous avez 3 fondateurs, ils font 3 startups. Quand on est dans un bear market, ces 3 fondateurs, ils se réunissent, quoi, en fait, et ils font une startup ensemble avec 3 super cerveaux à la tête de la startup. Donc ça diminue peut-être le nombre de startups, c'est vrai, mais ça augmente la qualité, en fait, des startups, parce que les fondeurs se réunissent et jouent en équipe beaucoup plus que dans un bull market où il y a des démarches beaucoup plus individualistes. Bon, voilà. Donc, il y a de l'espoir. Et puis, à long terme, effectivement, ça reste quand même... On n'imagine pas un monde sans technologie. Au contraire, on a besoin de plus en plus de technologie. Pour le early stage, comme le rappelait Pia en début de cette émission, de toute façon, les investissements devraient porter leurs fruits dans 4-5 ans. Donc, j'espère que dans 4-5 ans, on sera plus dans une crise, donc ça reste encore un bon moment pour investir en super early stage. Et en late stage, Elina, il y a des boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, donc maintenant, il va falloir se poser la question de comment utiliser cet argent-là. Et puis, elles ont souvent des investisseurs comme Revaya qui ont la capacité de les accompagner dans cette période. Donc maintenant, c'est leur talent de manager et de gestionnaire qui va être mis à l'épreuve. Bon, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette conversation, c'était super sympa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!